Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. C'est l'émission 767 comme un Boeing et vous retrouvez notre équipage. Rémi Jacob pour le Journal des Médias, Bruno Donnet pour ses télescopages et Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. On est ensemble pour 2 heures en direct, évidemment. Vous pourrez podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média du jour, c'est une bonne nouvelle. Les combattantes sont à la conquête du monde. La série française qu'on a vue sur TF1 est désormais dans le top 10 de Netflix. Netflix Monde. Et ce n'est pas un miracle, c'est une tendance. Beaucoup d'autres séries marchent très très bien à l'échelle de la planète. On en parle avec Iris Bucher, c'est la productrice des Combattantes et le rédacteur en chef du film français François-Pierre Pélinard-Lambert. Nos invités ensuite, Ziad Douairi. Il a réalisé les 2 premières saisons de la série culte Baron Noir. Il revient avec Cœur Noir, au pluriel, la première série qui décrit de l'intérieur l'univers des forces spéciales de l'armée française, en l'occurrence en Irak, pendant la guerre secrète contre Daesh. Guerre secrète parce qu'officiellement, la France n'était pas présente à Mossoul. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ces forces spéciales. Je n'oublie pas les indispensables. On va parler musique avec Stéphanie Loire qui va rendre un hommage à Tom Verlaine. Et Olis Goua nous fera découvrir une série qui dépeint l'univers des présentateurs des chaînes d'infos à l'époque où ce métier était en train d'être inventé, les années 70-80. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Le meilleur de la télévision récompensé hier soir, c'était au Festival de Luchon. On vous donnera le palmarès et on entendra la présidente du jury, Laurence Boccolini. Également une émission culte de télé-réalité qui pourrait faire prochainement son grand retour. Et enfin, Samuel Etienne qui est revenu sur son interview de Jean Castex. C'était il y a 2 ans sur la plateforme vidéo Twitch et vous le verrez, il n'en a pas gardé un très très bon souvenir.
Mais d'abord des bons souvenirs parce que c'est le top 3 des audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Et c'est France 2 qui est en première position avec Constance aux Enfers, 3,6 millions de téléspectateurs, soit 17,9% du public pour ce téléfilm porté par Miu Miu. Derrière, on retrouve TF1 avec la série The Resident, 2,3 millions de téléspectateurs, soit 9,7% de part d'audience. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec Qui veut être mon associé, 1,8 millions de téléspectateurs et 9,7% de part d'audience, un score stable par rapport à la semaine dernière.
Europe 1, le journal des médias.
Pour commencer, on part au Festival de Luchon qui a récompensé hier soir le meilleur de la télévision.
Et avec une grande nouveauté cette année, le festival qui s'est intéressé non plus seulement aux documentaires et aux fictions comme lors des précédentes éditions, mais également aux programmes de flux. Alors qu'est-ce que c'est les programmes de flux? Eh bien, ce sont les jeux, les émissions de divertissement et les magazines. C'est une grande première depuis la disparition des 7 d'or en 2003. Et le grand prix du jury a été attribué à un programme de France 2, un programme lancé en septembre dernier, dans lequel les invités doivent répondre à des questions plutôt atypiques.
Thérèse, Emmanuel Macron, t'as beaucoup de pognon?
Alors pour tout te dire, j'en avais plus avant de faire président.
Ah bah c'est une bonne nouvelle alors, si vous avez beaucoup d'argent.
Non, alors maintenant j'en ai beaucoup moins.
Emmanuel Macron invité en janvier des Rencontres du Papotin, émission qui remporte donc le grand prix du jury. C'est une déclinaison télé du journal papier Le Papotin avec une rédaction constituée de journalistes tous atteints du trouble du spectre autistique. Et ce programme a vraiment tapé dans l'œil du jury, comme me l'a confié sa présidente, une certaine Laurence Boccolini.
Je trouve que c'est une émission pleine d'humanité, pleine de fraîcheur, pleine de tendresse. C'est très simple en même temps, c'est très nouveau. Pourtant, c'est un journal qui existe depuis longtemps. Mais de l'avoir mis en image, je trouve de manière comme ça, très positive, ça m'a beaucoup touchée.
Laurence Boccolini, présidente du jury du Festival de Luchon. D'autres récompenses Rémi ont également été attribuées hier soir.
On va commencer par le prix du meilleur présentateur, un prix attribué à... roulement de tambour. Cyril Ferraud, l'animateur de France Télévisions qui remporte donc ce trophée du côté des animatrices. La récompense est attribuée à Faustine Bollaert. Dans le reste de la compétition, rapidement, le prix du meilleur magazine revient à la Maison des Maternelles. France Télévisions, décidément bien représentée dans ce palmarès. Je vous cite encore quelques prix. Meilleure émission hebdomadaire, c'est Vendredi, tout est permis. Absolument. Ouais. Meilleure émission quotidienne, Tous en cuisine. Un petit test, c'est
M6.
Bravo. Et le prix de la meilleure jeune création est attribué ex aequo à Rétroscopie.
TMC, c'est Hélène Manarino.
Exactement, et à l'émission Et si on se rencontrait à M6.
J'ai eu chaud.
Et je termine ce palmarès avec le meilleur divertissement. C'est là encore un programme de France 2, un programme qui en est déjà à 133e saison. C'est diffusé tous les étés. Et je suis sûr, évidemment, que vous avez deviné chez vous, il s'agit de...
Le chiffre des lettres.
De Fort Boyard.
J'étais pas loin, je plaisante. On parle maintenant de télé-réalité avec une émission bien connue des téléspectateurs qui pourrait faire son grand retour.
Une émission lancée sur TF1 en 2007, une émission avec une voix off bien particulière, souvenez-vous.
Ici la voix. Attention, ceci est une mission secrète.
La fameuse voix de Secret Story. Alors, ce programme va-t-il faire son comeback six ans après sa disparition de l'antenne? C'est en tout cas ce que laisse penser un tweet posté hier soir sur le compte officiel de l'émission. Ici, la voix est-il écrit, je vous le dis parce que je ne sais pas imiter la voix de Secret Story. À tous les internautes, méfiez-vous des apparences, c'est tout pour le moment. Fin de citation. Un message énigmatique, retweeté également par la société de production Endemol. En décembre dernier, son président Jean-Louis Blot avait d'ailleurs accordé un entretien à Pure Média dans lequel il affirmait, je cite, « travailler sur le retour de Secret Story et Loft Story ». On ignore en revanche pour l'instant la chaîne ou la plateforme sur laquelle l'émission pourrait être diffusée. Affaire à suivre.
J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette.
Celui qui a perdu la tête, c'est Danny Briand, le chanteur qui va jouer dans une fiction de France 2.
Eh oui, le chanteur qui a débuté hier le tournage d'un épisode de Capitaine Marlowe. Il donnera la réplique à Corinne Maziero dans cet épisode. Figurent également au casting Patrick Timsit et Lucien Jean-Baptiste. Et ça n'est pas la première fois qu'il joue dans une grande série télé populaire, Danny Briand, puisqu'il y a quelques années, ça remonte un peu, c'était en 2004, il avait fait une apparition dans un épisode des Cordiers jugés flics sur TF1.
On part maintenant sur Internet avec Samuel Etienne qui est revenu sur son interview de Jean Castex.
Oui, une interview effectuée sur Twitch. Vous savez, c'est cette plateforme qui permet de diffuser des vidéos en direct, de proposer des émissions depuis son salon. En mars 2021, Samuel Etienne avait reçu Jean Castex pour une grande interview. Deux ans après, le journaliste est revenu sur cet entretien avec l'ancien Premier ministre. C'était dans l'émission Zach en roue libre, diffusée sur Twitch, justement. Et ce moment avec Jean Castex, vous allez l'entendre, ne lui a pas vraiment laissé un bon souvenir.
Il est en responsabilité, il n'est pas libre de sa parole, il est très langue de bois, mais comme rarement j'ai vu en 25 ans d'interview politique, c'est-à-dire qu'il est, toutes les questions, il les esquive. Il est à la limite du mensonge sur certains trucs importants, notamment sur les vaccins. Je m'en rends compte tout de suite. Au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je me dis « Putain, il est en train de massacrer le truc. » Je vois le chat.
Alors c'est pas ouf, quoi.
Non, le chat qui est en feu, et il a raison, le chat. Parce que le mec, on n'est pas dans l'honnêteté, quoi. On n'est pas dans une parole vraie, comme François Hollande avait pu donner le sentiment de le faire, quoi.
On reste sur les réseaux pour terminer ce journal avec une actualité qui concerne Télé Loisirs.
Oui, un Télé Loisirs qui lance aujourd'hui un nouveau média consacré aux plateformes de vidéos à la demande. Ça s'appelle Superstream. Ça permet de tout savoir sur les films et séries qui sont diffusés en streaming. Au menu, des vidéos décalées, des interviews ou encore des témoignages. C'est vraiment une plongée dans l'univers de la SVOD, la vidéo à la demande par abonnement. Et tous ces contenus sont disponibles sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok et Facebook. C'est le choix qui a été fait par l'équipe de Télé Loisirs, comme l'explique Julien Lamurie des Sauvages. Il est directeur des rédactions grand public à Prisma Média.
En fait, c'est une nouvelle étape dans la construction de notre positionnement sur la SVOD, puisqu'il y a un an, nous avions lancé sur le site de Télé Loisirs une verticale où il était question de SVOD. C'est une verticale qui a fait plus de 200 millions de pages vues sur l'année 2022 et qui était consommée chaque mois par 4 millions d'utilisateurs. Donc ça a été un très gros succès. On sait que la SVOD aujourd'hui, elle est très regardée par les 18-34, et les 18-34 sont majoritairement sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle on a décidé de lancer un média social pop autour de cette culture SVOD.
Julien Lamurie des Sauvages, directeur des rédactions grand public à Prisma Média.
Et ce nouveau média lancé par Télé Loisirs s'appelle donc Superstream. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, Les Combattantes, la série française qu'on a vue sur TF1, est entrée dans le top 10 de Netflix Monde. Question, les séries françaises vont-elles conquérir la planète? Réponse avec Éric Buchet, c'est la productrice de la série, et François-Pierre Pélinard-Lambert, rédac-chef du film français. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Et si les séries françaises étaient à la conquête de la planète après le succès mondial de Lupin, HPI, 10%, le bazar de la charité, voici que les combattantes qu'on avait découvertes sur TF1 à l'automne sont en train de gagner la bataille de Netflix depuis la mise en ligne le 19 janvier. En 10 jours, la série a cumulé presque 55 millions d'heures de visionnage et le succès s'accélère. Du 23 au 29 janvier, on est précis, elle est la troisième série non anglophone la plus visionnée avec plus de 30 millions d'heures. Comment on peut expliquer ce succès? Et d'une manière générale, pourquoi les fictions françaises s'exportent-elles de mieux en mieux? Peuvent-elles conquérir le monde à la manière par exemple de la Casa des Papel? Bonjour Iris Bucher.
Bonjour Philippe.
Vous êtes l'heureuse productrice des combattantes chez Quad Drama. Vous avez produit plusieurs séries qui sont devenues des succès nationaux puis mondiaux comme le Bazar de la Charité, Vortex, le titre des combattantes en anglais.
Women at War.
Et il y a d'autres titres.
Oui, en allemand ça donne Die Kämpferinnen par exemple.
Et en espagnol?
Alors là, je sèche.
Las combatientes.
Las combatientes.
Je suis impressionné. Cet accent parfait, c'est celui de François-Pierre Pélinard-Lambert. Vous êtes le rédacteur en chef du film français.
Bonjour.
Film français, mais accent allemand parfait. Bienvenue dans Culture Média, c'est la première fois que vous venez. Vous allez nous aider à décrypter le succès des combattantes et pourquoi les fictions françaises commencent à se distinguer sur le marché mondial. Iris Bucher, vous étiez venue nous voir à l'automne, juste avant la diffusion des combattantes sur TF1. Le bilan de la diff sur TF1. En linéaire et tout chiffre confondu.
Le bilan était très bon. On était arrivé à 7 millions à J plus 30, comme on dit, donc avec les replays.
Vous attendez un tel score?
On l'espérait, je vais dire, parce que c'était un peu la, entre guillemets, suite du Bazar de la Charité, parce qu'on avait repris le même casting plus, donc Sophia Essaïdi, avec qui j'étais venue chez vous. Et oui, effectivement, on espérait un gros succès et ça a été le cas.
On va entendre la bande-annonce et après je vous demandais de quelle manière vous avez pris, endossé ce succès sur Netflix. Les combattantes, bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance.
Mes chers compatriotes, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples.
Tous les hommes sont mobilisés et la guerre est partie pour durer.
Les Allemands !
Vous voulez faire quoi quand tu es à la ligne de front ?
Je viens travailler. J'ai besoin de vous.
Je suis sûre qu'ensemble on va faire de grandes choses.
Les combattantes, c'est la bande-annonce en français qu'on vient d'entendre. 55 millions d'heures de visionnage sur Netflix en 10 jours seulement. Même question, est-ce que vous attendiez ces chiffres sur Netflix avec de la fébrilité ou est-ce que c'est la cerise sur le gâteau? Dans tous les cas, on est heureux. Comment vous avez appréhendé ces chiffres?
Là, on peut parler de cerise sur le gâteau quand même. On espère toujours que le plus grand nombre regarde ce qu'on met quand même 3 années à fabriquer avec énormément de gens, beaucoup de temps, d'énergie, de talent à tous les endroits. Donc oui, c'est un espoir qu'on a. Et quand il s'avère qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, mais qu'il y a vraiment un accueil assez fabuleux à travers le monde, c'est formidable.
Alors, je vais dire d'un mot, c'est le destin de 4 femmes, les combattantes pendant la Première Guerre mondiale. Une prostituée jouée par Audrey Fleurot, une infirmière jouée par Camille Lou, une bonne sœur campée par Judith Bonnat et une bourgeoise qui s'émancipe, jouée, elle, par Sophia Essaïdi. Il y avait une dimension militante dans cette fiction. Est-ce que, selon vous, ça a participé au succès de la série?
Je pense, tout à fait. Pour moi, il y a 2 choses qui peut-être peuvent expliquer ce succès. C'est à la fois l'universalité du sujet, parce qu'on parle de la guerre, la Première Guerre mondiale.
Et la guerre mondiale, pardon de ce
oui,
pléonasme.
Bien
mais
sûr.
Donc, et Netflix, c'est un réseau mondial.
Donc à la fois cette universalité, mais aussi la particularité du prisme, du point de vue. Parce que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on embrasse cette thématique de la guerre du point de vue féminin. Presque exclusivement féminin. Et donc, effectivement, ce sont des destins de femmes. C'est militant dans le sens où on parle d'émancipation, des femmes qui prennent leur destin en main, qui arrivent à surmonter toutes sortes d'obstacles.
Toutes sortes d'obstacles, point.
Point.
François-Pierre, je vous aide à terminer votre phrase. François-Pierre Pélinard-Lambert, je rappelle, vous êtes rédacteur-chef du film français. La question qu'on se pose, on va prendre de la hauteur. Est-ce que les combattantes et un succès français qui cartonne sur Netflix, c'est la belle histoire ou est-ce que ça devient une habitude?
Alors, je ne vais pas dire que ça devient une habitude, mais en tout cas, on est au-delà de la belle histoire. On est maintenant dans une histoire à nombreux chapitres. Parce que ça fait quand même 7-8 ans que la fiction française se distingue. Alors, avant, c'était très marqué par rapport à des séries spécifiques. Il y a eu le phénomène autour des Revenants, Il y a eu un phénomène autour d'Engrenage, qui ont été des séries qui ont vraiment eu un écho absolument énorme. Et je pense que le fait que Audrey Fleurot soit dans HPI, qui est maintenant la série française la plus exportée aujourd'hui, qu'elle ait été également dans Engrenage, c'est évident que ça a aidé. Et la chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus sur uniquement une série. On est sur un phénomène plus global de séries dans tous les genres, qui voyagent. L'an dernier, Unifrance, qui s'occupe de l'exportation de la fiction, a publié ses chiffres 2021, parce qu'il y a toujours un décalage. Mmh. On était à plus de 110 millions d'euros de ventes à l'international et on était à 25% au-dessus de l'année précédente. Et on pense qu'on va encore être à 25, voire 30 l'an prochain. Et je pense qu'en dehors de la qualité et de la variété des productions, parce qu'il y a des séries comme Les Combattantes avec des gros budgets, du grand déploiement qui se vendent, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des séries dont on parle peut-être moins, mais Candice Renoir est une série qu'on voit partout dans le monde. Des collections comme Les Meurtras ou Les Crimes, avec parfois certains qui se pincent un peu le nez, c'est des séries qui correspondent à des besoins de certaines chaînes. Et par exemple, il y a une chaîne qui est spécialisée dans le polar exotique au Japon, et la série qui marche le mieux, c'est Les Crimes et les Meurtres A. Mmh. Et on a du mal à imaginer que les Japonais se passionnent sur ce qui se passe à Carpentras. Ouais. Mais c'est pourtant le cas. Donc, y a tout ce...
Je vous interromps cette chaîne dont j'ignorais l'existence jusqu'à cet instant et je vous remercie. C'est peut-être un marché de niche. Peut-être que les gens qui regardent des polars au Japon sur cette petite chaîne spécifique, même si vous êtes le premier d'une chaîne de niche, c'est pas comme être le troisième sur Netflix.
Alors, oui, alors moi, j'ai tendance à être un peu contre une Netflixisation des esprits.
Expliquez.
Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a Netflix, Amazon, Apple et basta.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le sujet aujourd'hui. Hein.
Voilà, mais ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que, et ça aide également la visibilité des séries, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de plateformes dans le monde entier. Il y a des plateformes qui ouvrent tous les jours. Et ces programmes et ces plateformes, elles sont soit niches, soit, en plus de ça, la particularité. Aujourd'hui, quand vous avez M6 qui se décline en M6 Play, quand vous avez TF1 qui se décline en MyTF1, c'est le cas de toutes les chaînes classiques aussi. Et elles ont besoin de contenu. Et comme elles ne trouvent pas ces contenus, très souvent, chez les Américains, parce que maintenant, les Américains ont leur propre plateforme, vous voulez du Disney, vous allez voir du Disney. Il y a beaucoup moins de Disney qui circulent sur les autres programmes. Ben, il faut aller chercher des programmes. Et la France fait partie des pays qui sont capables de répondre à cette demande. Donc, visibilité accrue.
Iris Boucher, vous confirmez, il y a des chaînes de Taïwan qui vous appellent sur des niches spécifiques.
Absolument, des chaînes ou des plateformes du monde entier. Et ce qui est bien avec la niche, c'est une niche, c'est petit, certes, mais si vous faites de la niche dans plein de pays, vous arrivez à des chiffres, comme François Pien vient de le dire. Et il y a aussi le volume, en fait. On a beaucoup augmenté le volume de production en France. On est passé de presque 1000 à 1500 depuis un an maintenant, d'heures produites de fiction.
Et tout producteur confondu.
Absolument. Mmh. Et toutes chaînes confondues. Et c'est ce volume aussi qui nous permet de mieux exporter. Quand tu parles de la collection des meurtras, il y a aujourd'hui à peu près 70 unitaires meurtras, donc partout en France. Hein. Et pour les chaînes à l'étranger, c'est très important d'avoir du volume pour pouvoir nourrir une case du dimanche soir ou du samedi après-midi, un rendez-vous. Comme
et est-ce quand vous parlez avec des producteurs étrangers ou des diffuseurs, est-ce qu'il y a un label France comme à un moment donné, tout le monde voulait du polar danois ou comme dans les vins de Bordeaux, il suffit qu'ils viennent de Bordeaux, même s'il n'est pas du niveau de la production bordelaise, il se vend quand même. Est-ce qu'il y a un label France? Est-ce qu'on vous achète parce que vous êtes français?
Ça commence parce que les productions de ces 5 dernières années ont montré que l'ambition était là, la qualité était là. Et ce qui est intéressant aussi, on en parle moins, mais c'est que nos histoires passionnent. Et nos histoires dans le sens remakeable du terme. C'est-à-dire, on achète nos histoires et on fait des versions. Par exemple, il y a une version contemporaine turque du Bazar de la Charité. Ça a été remaké en Turquie.
Vous allez nous expliquer comment c'est possible, puisque le Bazar de la Charité, il a brûlé à Paris. Donc il lui
oui,
fallut qu'un
fin
bazar
19e.
Brûle fin 19e à Istanbul. Comment est-ce possible? Iris Boucher va nous le dire. Elle est avec François-Pierre Bellinard-Lambert. C'est le rédacteur chef du film français Culture Média. Continue, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle avec François-Pierre Bellinard-Lambert. C'est le rédacteur en chef du film français, du succès des séries françaises à l'étranger qui se dessinent de plus en plus, notamment Les Combattantes qui avaient cartonné sur TF1 et qui marchent très 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 bien sur Netflix. On est avec Iris Boucher, vous êtes la productrice chez Quad Drama des Combattantes. Vous parliez aussi du remake, c'est non pas les gens qui vous achètent la série telle que, mais par exemple des Turcs qui vous ont racheté le Bazar de la Charité. Je rappelle que c'est l'histoire d'un incendie dans Paris au 19e siècle. Et ils le refont, ils le refabriquent, ils réinventent l'histoire qui se passe en Turquie ou qui se passe en France. Comment ça se passe?
Qui se passe en Turquie avec des acteurs turcs. Et ce qui était étonnant, c'est qu'ils l'ont pris tel quel quasiment et l'ont fait en version contemporaine. Ce qui en dit long aussi sur la situation, la condition de la femme en Turquie, parce que par exemple, le rôle à l'époque, interprété par Audrey Fleurot, complètement sous la coupe de son mari Gilbert Melki, vous pouvez tranquillement refaire ça en Turquie aujourd'hui, ça marche très bien. Et d'autres, ils ont vraiment fait un gros travail d'adaptation, certes, mais toutes les lignes narratives, les destins sont les mêmes. Et ça a été très bien fait, même d'un point de vue qualitatif, production.
Ouais, dans ce cas, c'est comme 10% qui a été refait, qui a été vendu dans le monde entier.
Exactement.
Mais qui a également été refait avec des acteurs du cru, évidemment. Évidemment, dans ce cas-là, on touche des droits d'auteur qui ne sont pas les mêmes. J'imagine que si c'est un achat pur et simple.
Alors, les droits d'auteur sont pour les auteurs. Les droits de format, c'est moi qui les vends, en fait, à travers la société de distribution qui a le mandat. Mmh. Et ce n'est pas du tout les mêmes prix, bien sûr, mais c'est quand même une source de revenus, maintenant devenue non négligeable.
Mmh. On peut aussi coproduire, par exemple, dans le cas de la version anglaise de 10%, l'équipe française était coproductrice. En revanche, il y a maintenant sur Sky en Italie une version italienne de Sky, et là pour le coup c'est
de Sky, de 10%,
de 10%, et pour le coup là c'est une production italienne avec le même principe que racontait
Iris. Quand on voit les par exemple les séries ou les combattantes sur Netflix en anglais, en allemand ou en italien, qui s'occupe des voix anglaise, allemande, italienne, est-ce que c'est des boîtes de production locales, est-ce que c'est Netflix qui chapeaute tout ça, est-ce que c'est vous-même, comment ça se passe?
C'est Netflix qui a des antennes partout dans le monde et qui gère la synchronisation, ce qui est parfois un peu malheureux parce que dans Les Combattantes, il y a un rôle interprété par un comédien allemand qui s'appelle Pascal Audus, qui parle très bien français, ce qui lui a permis de à la fois jouer en français mais quand même être véritablement allemand avec un petit accent. Et il m'a envoyé un petit message, il était déçu parce que son rôle a été doublé par quelqu'un d'autre. Donc Netflix n'a pas fait appel à lui pour son propre rôle. Donc il s'est entendu dans sa langue maternelle, l'allemand.
Ils ont resynchronisé l'allemand
avec un autre acteur.
Qui parle parfaitement.
Oui.
Voilà, c'est comme si on...
Mais je pense qu'ils ne se sont pas posé la question. Il y a une série à synchroniser ou à sous-titrer dans toutes les langues. Je pense qu'il y en a au moins 27. Et ils ont des équipes en place partout avec des comédiens attitrés.
Alors, dès le départ, Les Combattantes avaient une double dimension internationale et nationale. Les Combattantes, c'est coproduit par TF1 et Netflix. Dans quelle proportion? 10-90, 50-50, 70-30?
J'avais besoin des deux, je vais le dire comme ça, pour produire la série.
Mais
c'est TF1 qui est majoritaire, clairement.
D'accord. Alors, comme j'ai posé une question gênante, je vous la pose à vous, François-Pierre Pélinard-Lambert. En général, c'est quoi la proportion de Netflix, TF1, de production internationale
et française?
C'est
parce que je suis devant la productrice.
Oui.
Mais normalement, on va dire, on est dans les moyennes entre 80-20 ou 80-10. Mais l'important, c'est que la chaîne française est le lead artistique. Et que c'est vraiment une série.
Ça allait être la question suivante.
Voilà, c'est une série, mais c'est parce que c'est la grande question.
Évidemment.
Et vous allez le voir de plus en plus. Par exemple, dans quelques semaines, Amazon va proposer une série qui s'appelle Cœur Noir.
Vous savez quoi ? On reçoit son réalisateur dans quelques instants. Extraordinaire série que j'ai vue hier.
Avec Amazon. Et donc, il va y avoir une sorte de jeu de fenêtre entre d'abord sur Amazon, ensuite sur France Télévisions. Après, ça repartira sur Amazon dans le monde. Et c'est des vraies questions aujourd'hui où, pour avoir des séries de catégorie internationale, c'est vrai que l'apport de Netflix a été important parce qu'il a aidé à apporter une valeur de production encore supérieure à ce que tout le monde souhaitait. Et évidemment, l'important aussi, c'est de savoir qui est-ce qui a le lead artistique. Et dans le cas précis, c'était TF1.
Ziad Doueri, le réalisateur de Baron Noir, qui sera avec nous. De Baron Noir et cette fois-ci de Cœur Noir, parce qu'il a fait les deux premières saisons de Baron Noir, qui sera avec nous.
Et Cœur Noir, en effet, c'est remarquable.
Justement, et comment ça se passe quand vous faites les réunions? Il y a des réunions quand on produit avec la chaîne. Qui a le lead? Qui donne le final cut avant de commencer à tourner?
Netflix n'intervient pas du tout. Il se prononce sur un projet, sur des scénarios ou un casting. Mais ils n'interviennent pas. Ils disent oui, on y va, non, on n'y va pas. Mmh. Après, c'est une question de négo financière qui est menée donc, par le distributeur. Mais à aucun moment, ils interviennent ni sur l'écriture, ni sur le choix de casting, ni sur rien. Ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on appelle les Netflix Originals, où en tant que producteur, on travaille avec les équipes de Netflix ici à Paris. Et on travaille avec eux, comme on travaille d'ailleurs avec Anne Viaud, Solène Bouton du côté TF1 sur Les Combattantes. C'est-à-dire ce sont nos partenaires qui accompagnent tout le processus de développement de production et de post-production d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, nos partenaires sont les gens de Netflix.
Je me tourne vers François-Pierre Pélinard-Lambert. Est-ce que le public des plateformes a aboli les frontières ? Je veux dire le sens de ma question. Au cinéma, un film français a peu de chances de cartonner à l'international. Ça arrive, mais c'est une exception. Est-ce que dans les séries, la chose est différente ? Est-ce que tout le monde part sur la même ligne de départ, comme on peut se passionner pour La Casa de Papel, une petite série espagnole ?
Globalement, oui. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que malgré tous les algorithmes possibles de la Terre, par exemple, Squid Game, personne n'imaginait, ou même au sein de Netflix, que la série aurait cet écho-là.
Même en Corée. C'est une série coréenne.
Voilà. Et j'ai toujours cet exemple de La Casa de Papel, qui est à l'origine une série de l'équivalent d'M6 en Espagne, qui a été achetée, qui n'avait pas marché en Espagne, qui était une série formatée à l'espagnol avec des épisodes de 70 minutes et pas avec la même dramaturgie. Et Netflix a vu le résultat, il a racheté les droits, il s'est dit il y a quelque chose à faire, mais on va tout remonter. Et ça a été la surprise de voir comment d'un échec, entre guillemets, parce que ça avait été un échec, c'était une série coûteuse, ça avait été un échec en Espagne, c'est devenu un succès mondial. Et alors ça, on a beau essayer de les mettre en avant, d'avoir toute la promotion, c'est le grand mystère et l'aliment des étoiles. Ça, jusqu'à preuve du contraire, on reste dans le prototype.
Voilà. Est-ce que vous avez des séries comme La Casa de Papel dont vous dites, oh là là, on est passé à côté d'un succès, il faut la remonter, je vais la reproposer. Est-ce que vous avez ça en stock chez Quad Drama, Iris Boucher ?
Pas en version finalisée, parce que je ne peux pas, avec mes fonds propres, produire toute une série. En revanche, ce qui arrive souvent, c'est d'avoir des projets écrits qui ne trouvent pas acheteur à un moment donné et qu'on repropose plus tard. Ça a été le cas de Vortex, par exemple, qui est passé sur France 2 en janvier.
Merci beaucoup et je suis ravi que les séries françaises s'exportent. Iris Boucher, vous êtes la productrice, l'heureuse productrice, c'est comme ça qu'on dit, des combattantes chez Quad Drama. François-Pierre Pélinard-Lambert, vous êtes l'heureux rédacteur en chef du film français.
Merci.
Ça marche bien le film français, c'est aussi une émission média. Vous savez quoi ? Je réalise qu'on ne vous a jamais reçu, on n'a jamais parlé du film français dans cette émission et c'est une invitation que je lance. Merci d'avoir été avec nous en direct. On va continuer justement à parler de séries françaises avec cette série qui arrive sur Prime Vidéo. C'est demain, les forces spéciales en Irak qui luttent contre Daesh. Les forces spéciales, c'est une guerre secrète, c'est réalisé par Ziad Doueri. Il sera avec nous et puis on va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevons le réalisateur Ziad Doueri pour la série Cœur Noir qui suit les forces spéciales en pleine guerre contre Daesh. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Bonjour Bruno. Tous les jours, Bruno, vous distinguez ici le meilleur et le pire des productions médiatiques. Et ce matin, vous vouliez mettre à l'honneur le travail et les mots de deux femmes, deux journalistes de la presse écrite.
Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre des propos entendus hier soir à la télévision et des mots lus hier matin dans les colonnes de Libération, je vous raconte. Hier soir, la Grande Librairie, l'émission littéraire de France 5, recevait la journaliste Florence Aubenas. On connaît ses reportages et son travail précieux auprès notamment des femmes de ménage du quai de Ouistreham, de la France des ronds-points qu'elle a décrite au moment des Gilets jaunes, ou encore de ces aides-soignantes d'un EHPAD du Jura qui lui ont raconté, bien avant le scandale Orpea, leurs conditions de travail et leurs 117 jours de grève. Bref, on sait parfaitement bien de qui parle Florence Aubenas, mais j'ai été frappé par la manière dont elle a évoqué ce qu'elle raconte si bien dans ses reportages. J'ai été touché car elle a refusé de les nommer les invisibles.
Je pense que dire c'est les invisibles parle de celui qui emploie le mot. En fait, ils sont invisibles pour lui ou elle qui dit ce sont des invisibles.
Et puis après cette précision salutaire, Florence Aubenas a fait part de ses doutes. De ses doutes et de ce qui fait au fond la grande difficulté du métier de reporter, de tous ceux qui sont chargés de nous transmettre des histoires qui ne sont pas les leurs.
On est porteur de ce qu'ils vont dire, on est porteur de ce qu'ils défendent. Et on se dit, est-ce que je vais parler aussi assez fort pour qu'il se fasse entendre ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va marcher ?
Voilà, alors en entendant ce questionnement, j'ai immédiatement pensé à un portrait. Un portrait d'une humanité saisissante que j'ai lu hier matin en dernière page de Libération. Le papier est signé Marie Picmal, une journaliste qui, elle aussi, sait trouver les mots pour raconter la vie de ceux auxquels les médias s'intéressent d'ordinaire aussi peu. Son article est une de ces raretés que la presse écrite produit encore très régulièrement, mais dont on parle rarement, trop occupé que nous sommes par la guerre, l'inflation et les turpitudes de ces célébrités dont on se demande bien pourquoi elles sont à ce point visibles. Marie Picmal l'écrit dès la première ligne de son papier, elle a rencontré une fée. Une fée bricoleuse, nous dit-elle, une fée, une vraie, de celles qu'on ne rencontre d'ordinaire que dans les contes pour enfants. La fée dont il est question s'appelle Nancy Krafcik. Elle a 57 ans et depuis 9 ans, dans une association nichée à quelques pas de la gare du Nord à Paris, elle donne des douches. Elle lave et raccommode les vêtements des SDF. Car comme l'écrit Marie Picmal, le froid et l'alcool attaquent vite la fierté et le corps. Seulement voilà, Nancy Krafcik n'a pas été facile à convaincre. Notre consoeur l'écrit, il a fallu l'approcher sur la pointe des pieds et slalomer entre ses interdits. Pour 1300 euros par mois, c'était seulement 900 avant le Covid, la fée aide donc ceux qui n'y parviennent plus à se laver. Dans une odeur qui retourne le ventre, apprend-on, Nancy essaye de rendre leur dignité à tous ceux qui l'ont momentanément égarée. Leurs vêtements sont souvent si sales qu'il faut les faire tremper avant de les laver à 60 degrés avec de la lessive qui dépote, un fongicide puissant qui vous donne l'impression d'être dans une forêt des Vosges. Dans son pantalon, il paraît que Nancy Krafcik a toujours une aiguille et du fil pour recoudre les vêtements de ceux dont elle raccommode l'âme, ainsi qu'une petite paire de ciseaux pour couper des cheveux ou tailler une barbe. Mais Nancy manque de stock, qu'il lui faudrait davantage de vêtements en bon état. Ainsi, elle se désole tout particulièrement les jours de pluie où elle laisse repartir certains de ses protégés avec des chaussettes encore mouillées. Marie Picmal l'écrit, Nancy Krafcik est un soleil qui donne de la lumière sans la chercher, et son histoire devait absolument être en der de Libé. Elle a raison Marie, car c'est très beau le journalisme, surtout lorsqu'il est pratiqué ainsi, tout simplement, à hauteur d'homme.
Merci beaucoup Bruno Nunez, c'était très touchant.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ziad Douairi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, votre film L'Insulte avait été nommé aux Oscars en 2018 dans la catégorie du meilleur film étranger, c'est pas rien. Vous avez réalisé les deux premières saisons de la série culte Baron Noir, c'est pas rien non plus. Et votre actualité, je peux le dire pour avoir vu, c'est pas rien. La série Cœur Noir, c'est au pluriel, ça s'entend pas à la radio. Cœur Noir, pour la première fois, une série française qui parle de l'armée française, plus précisément des forces spéciales. Ce sera à voir à partir de demain sur Prime Video. Il y a 6 épisodes avec notamment Nicolas Duvauchel. Première question pour qui ne sait pas, que sont les forces spéciales? Elles dépendent de l'armée française, mais officiellement, parfois, elles ne sont même pas sur le terrain.
Les forces spéciales, c'est les gens qui arrivent sur le terrain avant l'arrivée de l'armée. C'est des gens qui travaillent en secret. On appelle en anglais « cross the enemy line ». Ceux qui se parachutent ou qui avancent derrière les lignes de l'ennemi pour faire des exploitations, pour avoir des renseignements, pour tâtonner le terrain.
Votre histoire commence alors que la guerre contre Daesh fait rage. On est en 2016, en octobre 2016 pour être précis. L'armée irakienne s'apprête à reprendre la ville de Mossoul. Il y avait Daesh, l'État islamique, et l'armée irakienne s'apprête à la reprendre, aidée plus ou moins officiellement par les Américains. Il y a beaucoup de djihadistes français qui combattent au sein de l'État islamique et ils sont recherchés justement par les forces spéciales françaises. Mais officiellement, l'armée française n'est pas présente en Irak. On écoute la bande-annonce et on en parle.
Et là, c'est la maison, c'est le 45.
Vive le 45.
Zahid, vétéran du djihad, on suppose qu'il connaît les cellules qui ont organisé les attentats de 2015.
Je suis français.
Si tu travailles avec nous, on peut finir ce pourquoi tu es venu. Sauver ton petit-fils, Yanis, et Salwa, ta fille.
Alors, il y a énormément d'action, mais ce n'est pas un pur divertissement. Il n'y a pas d'explosion pour faire du spectacle. Tout est vrai. Vous avez travaillé en collaboration avec le 13e régiment de dragons parachutistes. Vous avez dit, si je n'avais pas eu leur collaboration, je n'y serais pas allé. De quelle manière avez-vous travaillé ensemble?
Regardez, quand on est rentré dans ce projet, Gilles de Verdière, le producteur, m'avait proposé de le faire, ce projet. Et j'ai trouvé que ça valait la peine énormément de faire un projet parce que, comme vous savez, dans le cinéma français, on ne parle pas beaucoup du militaire.
Non.
Alors qu'aux États-Unis, il y a cette relation très symbiotique entre les armées et le cinéma. Depuis la Deuxième Guerre, ils le font. Parfois, c'est pour des raisons de propagande et parfois simplement parce qu'il y a une relation qui était établie. En France, on n'a pas encore ça. Donc, j'ai dit à Gilles, écoute, il va falloir qu'on reste beaucoup dans le... pas seulement dans le réalisme, mais dans la gestuelle. On ne veut pas sentir que c'est des acteurs qui font un peu n'importe quoi. Donc, il m'a dit, le 13e régiment à Bayonne sont prêts à nous accueillir pour qu'on pose des questions avec les écrivains, tout ça. Et j'ai passé 3 jours avec eux en posant beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas pu répondre parce que c'est des gens qui travaillent
dans le secret.
Mais il y avait beaucoup d'informations sur le côté humain qui nous intéressait beaucoup.
Est-ce que tout ce qu'on voit à l'image est vrai? Est-ce que l'électronique qu'ils ont existe vraiment? Parce qu'elle est très spectaculaire. Est-ce que ça existe, la tablette qui peut borner un téléphone portable en temps réel?
Tout à fait. D'ailleurs, il y a pas mal de choses que nous, on a essayé d'inventer. Et ce qui était très important, c'est qu'on avait eu avec nous le chef du groupe qui a fait 20 ans de forces spéciales. Mmh. Et il a accepté de venir et être notre conseiller militaire. C'est Radouane Ouaziz, qui était vraiment un mec super. Il a fait le Mali, l'Afghanistan, la Yougoslavie, le Liban, la Syrie, l'Irak, tout. Et il s'approchait de la retraite. Gilles lui a approché, il lui dit « Écoute, on a besoin d'un conseiller militaire ». Et il a supervisé toutes les manœuvres. C'est-à-dire, chaque fois que, comme dans chaque attaque qu'on avait dans le film, chaque fois qu'il y avait des batailles, je l'avais chorégraphé avec lui pour rester le plus possible dans le véridique.
Les batailles sont absolument saisissantes. Il y a de l'action, il y a également de la psychologie. Vous l'avez dit, c'est essentiel dans une guerre. On va entendre le début d'une scène fondatrice, la scène de l'interrogatoire. J'explique le contexte. Les forces spéciales françaises ont réussi à mettre la main sur un émir, un grand chef de Daesh. Il se planque près de Mossoul. Or, normalement, il ne devrait pas être là parce que c'est tout pourri, sa planque. Normalement, les grands chefs, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne prennent pas de risques. Ils sont planqués au Pakistan ou à Dubaï et il va être interrogé. Extrait.
Bonjour Zaïd. Je suis officier renseignement au sein des forces spéciales. Je m'appelle Adèle. Toi et moi, on n'a pas beaucoup de temps. Moi parce que j'ai beaucoup de travail, et toi parce que du temps tout court, ici, t'en as presque plus. J'ai réussi à convaincre nos amis irakiens que tu serais peut-être plus intéressant vivant que mort. À toi de me le prouver. Je sais pas si on t'a dit, mais le mec qui te cachait a été exécuté. Je voudrais comprendre une chose. Qu'est-ce qu'un mec comme toi, responsable renseignement de l'organisation, faisait là en pleine zone libérée, seul, dans une planque pourrie? Parce que la tendance chez vous, en haut, à ce qui paraît, c'est plutôt d'aller à l'étranger, se planquer chez des cousins barbus, pendant que les combattants de base se font massacrer à Mossoul, non? Ah oui, c'est pas simple pour toi de parler. Je vais t'aider.
Comment va-t-elle l'aider? Je le précise, elle lui montre une photo de sa fille avec son bébé, donc son petit-fils. C'est quoi le deal?
Le deal, c'est que tu nous aides, on t'aide. Et le deal, dans le sens inverse, c'est lui, il dit, vous voulez que je vous aide, vous m'aidez. Donc, c'est ça le bras de fer de toute la série, au fait, comment on négocie avec l'ennemi. Et il y a une chose que j'ai fait quand j'étais dans le régiment de 13e RDP, c'est qu'on comprend très très fort que les Français sont très très... L'armée française sont très très forts sur le terrain. Dans les services de renseignement. C'est vraiment des gens très, très pointus. Je pense même plus que les Américains. Les Américains sont très pointus au point de vue technologique. Mm-hmm. Les Français, au point de vue rentrer dans le pays où on sort, on connaît les coutumes, on mange avec eux, on parle, ça aide beaucoup à avancer.
Et c'est pour cette raison que j'ai choisi cette scène de l'interrogatoire. Il est mené par Adèle, qui est incarnée par Marie Dompnier. Elle est officier d'enseignement et la place des femmes est très importante dans la série et elle colle à la réalité des forces spéciales.
Enfin, c'est une des premières questions que j'ai posées quand j'étais au 13e régiment. J'ai dit, est-ce que les mecs, vous avez des femmes? Et effectivement, j'ai rencontré plusieurs femmes. Même, ils ont une femme snipeuse qui m'ont dit, ça rigole pas, elle porte 60 kilos sur son dos, elle grimpe une montagne comme ça. Donc, je n'ai pas rencontré la femme parce qu'elle était en mission à l'époque. Mais c'était très crédible, hein, c'est que les femmes sont très impliquées.
Alors, la réalisation est d'une efficacité redoutable, je vous fais un compliment. Il y a une scène avec un drone qui est envoyé dans un garage clandestin pour espionner des terroristes. Il y a du suspense, et vous savez quoi? Moi, j'avais peur pour le drone, comme si c'était un être vivant. C'est extraordinaire, cette scène.
Je vous raconte, les forces spéciales, ils ont un drone de la taille d'une libellule. C'est construit par les Danois. C'est un truc qui est extrêmement petit, qui coûte 90 000 euros. Quand on était au Sofins, qui était le salon des forces spéciales, j'avais demandé à ce que vous pouvez nous prêter cet hélicoptère. Il est vraiment comme ça. Ils ont dit non, monsieur, on ne peut pas vous prêter. C'est des trucs de très, très, très grands secrets.
Là, c'est un plus gros. Là, c'est un plus
Alors,
gros qu'on voit.
On est allé, on a acheté un qui est un peu plus grand, on l'a modifié, on l'a peint pour que ça donne le sentiment que c'est un objet de très grande valeur.
J'aurais insisté sur le réalisme, la qualité, je l'ai dit, de la cinématographie, le réalisme. Vous êtes né au Liban, Ziad Doueiri, vous avez connu la guerre civile, c'était pendant votre adolescence, et vous dites que vous reconnaissez à l'oreille le son des armes.
J'avais des membres de ma famille qui étaient des combattants. La guerre, quand elle a commencé en 1975, j'avais 12 ans, et c'était à Beyrouth, et Beyrouth était divisé. Donc on savait que quand, à l'époque c'était l'ennemi, il lançait un mortier 82 mm, on connaissait le son. Un 160 mm, on reconnaissait le son. On savait à quel moment la bombe se barrait et de descendre. Donc quand on est parti dans le montage son, J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le son pour dire au montage sonore, il faut utiliser ce genre de mortier ou ce genre de grenade ou ce genre de tir.
Il fait la différence, notre invité, entre le son d'un M16 et celui d'une Kalachnikov. Vous parlez du syndrome post-traumatique qui a longtemps été un tabou. Cette série, on l'a dit, s'est faite en collaboration avec l'armée, mais ce n'est pas non plus un public rédactionnel.
Pas du tout. Vraiment, on n'a pas été, Philippe, sur cette série pour faire de la propagande. Ce n'est pas intéressant, en fait. Il fallait montrer ces soldats qui prennent énormément de risques. En fait, quand j'étais avec eux à Bayonne, à un moment, on s'est posé, pourquoi on fait un truc pareil? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un d'aller et faire des missions aussi critiques et dangereuses?
J'ai cru que le truc pareil, c'était pourquoi on fait ce film. Film est absolument formidable. C'est une série, ça s'appelle Cœur Noir. On n'a pas explicité le titre, regardez-le. On va la voir. Alors, je vais vous dire, vous avez fait un truc vraiment très, très, très malin. On a reçu 5 épisodes, mais il y en a 6. Donc, dans l'équipe, on ne sait pas comment ça se termine. On est vert. On attend demain pour voir ça à l'antenne. C'est à voir sur Prime Vidéo. C'est avec Nicolas Duvauchel, Marie Dompnier, Nina Meurice, qui est formidable aussi, et Thierry Godard, qui ne l'est pas moins. Merci d'avoir été avec nous, Ziad Touhiri. Culture Média continue sur Europe 1. Après les infos de 10h, on devait recevoir Daniel Pénac. Mais il a eu, comme on dit, un empêchement indépendant de sa volonté. On va rediffuser l'interview de Riyad Satouf. Pourquoi? Parce que l'Arabe du futur 6 a cartonné et... Riyad Satouf vient d'être la semaine dernière lauréat de la 50e édition du Festival international de la BD d'Angoulême. Et puis dans les indispensables, Stéphanie Loire va nous présenter un jeune chanteur français. Elle va rendre hommage à un vétéran du punk new-yorkais, c'est Tom Verlaine. Et puis Héloïse Goy va nous parler d'une série australienne qui se penche sur le métier de journaliste, journaliste à la télé plus précisément. Jean-Luc Lemoine évidemment sera là pour sa session de rattrapage. A tout de suite.